Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour les amis, bonjour. Est-ce que ça va bien, les petits amis? Incroyable, bonjour tout le monde. C'est fou. Merci d'être là, merci beaucoup. Merci Orgrix, merci Chapeau de Paille, merci M8, merci Panda Rose, merci Asimov, merci Doc Aubry, Beb Manta, Tifok, Degnor. Jeff, Isorea, Cernelion, Cernelion, pardon, Exaltation, Salamèche, Naroche, Velania, Krigoz, Raphaël, The Mantra, Coïs, Arthur Pruneau, Déclanter, Alain Proust, Lexa, Darbonovitch, Diane, Thorak, Paruguma. Merci Trojan pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Merci, bonjour toi, Soujay, Joafen. Merci les amis pour vos subs. Merci Azurols. Merci Lomi. Merci Nincola. Loutre Saphir. Machine Linguiste. Merci les amis. Bonjour à vous. Il y a des bangers dans les nicknames. Ouais, il y en a deux, trois, ouais. Il y en a deux, trois. Merci HE, merci Talion. Comment ça va les copains? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous bossez? Vous êtes comment là? On est sur un petit spritz au bord de la piscine, on est au boulot, on est à la maison, on joue aux jeux vidéo, on fait quoi? Ça bosse, rattrapage, reprise, ça bosse, chômage, taf, boulot, hôpital, ah merde, chômage, vacances bientôt, ménage, taf, on bosse, travail, putain, vous faites tourner la France, hein? Oh, la commu de bosseurs! Non, merci, hein, merci, merci, continuez, hein. Continuez, j'aime bien. Je fais à manger, toilette. Toilette, tu veux dire comme les chats, tu te lèches partout. Et deux chômeurs. Ouais, il y a des chômeurs. Mais les chômeurs, c'est des aspirants travailleurs, donc c'est pareil. je marche sous la pluie, ça bosse. Repassage. Oh là là, vous êtes actifs, hein. Bon, moi, je viens de rentrer, là, ça y est, je viens d'arriver chez moi. À peine arrivé, j'ai lancé un stream. Je vous l'avais promis, je vous l'avais promis. Non, parce que bon, voilà, il y a eu une expérience malheureuse. Il y a eu une expérience malheureuse hier soir. Vraiment? Non, parce que vous vous souvenez quand j'ai posé mes congés. Quand j'ai posé mes congés auprès de mes employeurs, donc de vous, je vous avais dit, je pars en vacances avec mon Mac, et s'il se passe des dingues, je fais un stream en vacances. Bon, j'ai voulu tester en me disant, mais non, mais attends, je vais quand même faire un stream des destitutions, tout ça. Et bon, c'était un test technique qui n'a pas été concluant. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Tentative louable. Oui, voilà, c'est ça, tentative louable. On a testé. La DSL, bon, voilà quoi. Déjà que j'arrive pas à regarder des vidéos YouTube, je vais pas réussir à streamer, c'est mort. Mais voilà, donc c'est dead. Impossible de streamer, impossible d'envoyer quoi que ce soit. C'était capé à 500 kbps. Bon, c'est pas grave. J'ai laissé tomber. Mon père m'a dit, attends, t'inquiète. Normalement, Inch'Allah, la fibre arrive en septembre-octobre. Dans le village. Donc, il y a un monde où l'été prochain, ça stream. En plus, c'est pas des fibres mutualisées comme dans les grandes villes. C'est des fibres directes où tu peux avoir du 700 mégasecondes en montant, en connexion montante. C'est ce genre de fibres-là, des fibres de dingue. On file des fibres incroyables à des personnes âgées qui savent pas utiliser Internet, et nous en ville, on est obligé de mutualiser des fibres avec les voisins et tout, et on peut pas envoyer autant qu'on veut. C'est une injustice. Moi, je vous dis, c'est une injustice. C'est comme ça. Je suis en grande ville, j'ai 2 gigabits symétriques. Oh le bâtard! Mais t'as une fibre noire? Comment tu fais? J'ai 1 giga, qu'est-ce qu'il y a? Oh le bâtard, Pemph, il se la pète. Sais pas combien j'ai moi. Je peux faire un speed test pendant un stream. Ça va pas fausser le speed test. Hop, hop, ouais, j'accepte de vendre mes données au plus offrant. Ah non, j'autorise pas les notifications, on va te faire foutre. J'ai 1 giga 4 en descendant. Ok. 1 giga 5. Et en montant, j'ai combien? J'ai 800. Pas dégueu. Non, c'est honnête. C'est honnête. J'ai été mes 10 ans. J'ai médit. Bon. 1,5 giga en descendant, 800 en montant. 800 mégas en montant, c'est pas dégueu. Ça va. Ça veut dire qu'il faut attendre la retraite pour avoir une bonne connexion, exactement. Dans ta chambre hors PA, dans ton EHPAD, t'auras une fibre de ouf. N'empêche, ça va être intéressant les maisons de retraite quand nous on sera vieux. Hein. Il y aura des PC dans les chambres et tout. Je vous prends Mario Kart, hein. De toute façon on aura que ça à foutre. Première fois sur ton live depuis ta chaîne YouTube. Pour un faux speed test, c'est vachement optimiste par rapport à la réalité, ça choisit le meilleur service pour toi. Ah, bon je te crois. Je te crois, mais c'est bon, c'était indicatif, c'était histoire de voir. On fera du RP sur GTA 7. Ouais, voilà, c'est ça, on fera du RP GTA 7. Dans nos chambres RPA. Hors PA, pardon. Pendant qu'on rationnera nos biscottes au petit-déj. Le Mario Party d'après-dîner. Bon. Ouais, donc du coup, ouais, non, je suis rentré de vacances. Non, parce que là, je suis rentré de vacances, mais je repars vendredi. Je vais aux universités d'été des écologistes qui ont lieu à Tours cette année. L'année dernière, j'avais été invité, c'était au Havre. Cette année, c'est à Tours. Et j'y vais parce que je suis invité par Sandrine Rousseau à participer à un atelier qu'elle fait sur la santé mentale. Alors moi, d'habitude, je dis non à ce genre de truc. Mais là, bon, c'est Sandrine, je lui ai fait non, mais vas-y, en vrai, let's go. Vas-y, c'est bon. Et du coup, j'ai envoyé un texto aux organisateurs en leur disant, bon, bah, puisque je serai là, si vous voulez m'utiliser pour animer des ateliers, n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Enfin, let's go, quoi, je suis bénévole, je m'en bats les couilles, on y va. Ils m'ont dit, ah, bah, ça nous arrange, du coup, est-ce que tu veux bien animer deux ateliers? Du coup, samedi, matin et après-midi, j'anime deux ateliers. Un atelier sur la dissolution et un atelier l'après-midi sur la proportionnelle. Donc si vous voulez viendre, solution, exactement, solution bien sûr, la dissolution du pastis, tout à fait. Donc si vous voulez viendre, n'hésitez pas, ça va être chouette. Voilà, mais si vous voulez pas viendre, c'est pas grave, ce ne sera pas streamé. Ce ne sera pas streamé, c'est une exclue locale. Laquelle tour du coup? Bah tour de gamer. De PC. Elle est pas ouf cette blague. Hein. Pas dingue. Toujours en province. Bâtard. Question conne, mais c'est payant les universités? Oui, je crois que c'est payant, oui. Oui. C'est pas une adhésion au parti, mais je crois que tu dois payer un petit billet de participation aux frais, ouais. Je crois, hein. Attends, je vais vérifier. Journée d'été des écologistes, hop. Information pratique, inscription. T'as le choix entre moins de 18 ans, précaire, classique, Tourangeau. Inscription au meeting Nouveau Front Populaire, oui, parce que le jeudi soir, il y aura un meeting de Lucie Castet. Moi, j'y serai pas, j'arrive le lendemain. Et soutien. Le tarif classique, c'est 40 balles. 40 balles pour 3 jours. Ça consiste en quoi, en fait, ça? Alors, les universités d'été des partis politiques, ça a été inventé par l'UDF. L'Union pour la démocratie française, donc les centristes, les giscardiens. Dans les années 70, après le premier choc pétrolier, c'est là qu'on a inventé, notamment Giscard, qui a beaucoup travaillé à ça, il a inventé, vous savez, le G7. Vous connaissez le G7? La réunion des 7... président et chef de gouvernement des 7 plus grandes économies du monde qui se réunissent dans un cadre informel. C'est ça le principe des G7 et des G20 qui ont été inventés plus tard à la fin des années 90, mais c'est le principe d'une réunion informelle entre chefs d'État. Donc on n'est pas dans un cénacle onusien, on n'est pas dans un sommet international, parce que ces cénacles-là, diplomatiques, habituels, sont très guindés, sont très protocolaires. ce sont des échanges entre dirigeants de différents pays qui signent des déclarations communes, qui s'engagent sur des traités, qui négocient des traités, des trucs comme ça et tout. Là, l'invention du G6, G6 en 75 et G7 ensuite, c'est une rencontre informelle entre chefs d'État qui doivent pouvoir se parler librement, facilement, avoir accès les uns aux autres dans un espèce de week-end où il y a des temps comme ça de rencontres où on parle de tout, de rien. Alors chaque chef d'État vient quand même un petit peu avec des idées en tête, mais le but c'est que vraiment la discussion puisse se faire la plus librement possible pour aborder les grands problèmes du monde. Voilà, c'est ça le principe. Et donc dans cette même veine, dans cette même philosophie, l'UDF a organisé pour la première fois un événement à la fin de l'été, avant la rentrée parlementaire, après les vacances, mais avant la rentrée parlementaire, un espèce de temps d'échange et de rencontre entre les adhérents du parti, entre les élus du parti aussi, pour discuter de manière informelle. C'est une rencontre informelle qui n'est pas un congrès du parti. On n'est pas là pour voter pour des motions, des trucs comme ça. On est là pour avoir un temps d'échange et de discussion avec des tables rondes, des ateliers, des conférences. On invite des gens extérieurs au parti à venir dire ce qu'ils ont à dire. On invite des orateurs, des oratrices, des universitaires, des journalistes, etc. pour avoir un temps de discussion, pour nourrir la réflexion du parti avant la rentrée parlementaire, où là, on rentre dans le dur de la politique traditionnelle. Donc voilà le principe d'une université d'été. Aujourd'hui, tous les partis font ça, sous différentes formes, etc. Mais c'est à peu près toujours la même chose. C'est un week-end à la fin de l'été, avant la rentrée parlementaire, où on se réunit, pas à Paris, dans un cadre léger, sympa, pour passer un bon moment et discuter, échanger et faire un peu de philo, quoi. Voilà, c'est ça les universités d'été des partis. Et du coup, si vous n'êtes jamais allé à l'université d'été du parti, moi je vous ai toujours dit que ça peut être un bon premier pas. Ça peut être un bon premier pas pour rencontrer un parti politique. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous pouvez juste aller écouter, rencontrer les gens, papoter. Pas le RN. Si le RN organise, si le RN organise une espèce de fête, genre la fête des patriotes, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. La fête à Neuneu. C'est ça, c'est la fête à Neuneu. Le rendez-vous de Skinhead. Ah, bah, y a pas que des flèches hein, qui s'y précipitent, c'est sûr. Bah, c'est dans les universités d'été du FN que Jean-Marie Le Pen faisait sa rentrée politique chaque année. Il faisait un grand discours, le chef du parti faisait un grand discours en clôture des universités d'été du FN. Et il donnait la ligne du parti pour l'année à venir, quoi. Donc voilà, bref, les universités d'été des partis, ça existe depuis des années et ça fonctionne assez bien. En tout cas, ce que je sais, c'est que les partis apprécient beaucoup ces moments d'échange, les adhérents, les militants apprécient beaucoup, les élus aussi apprécient beaucoup. Ça change du train-train quotidien, du travail parlementaire, des instances du parti comme le congrès par exemple, ou les bureaux politiques, les conseils nationaux, les trucs comme ça qui sont très évidemment formels, dans lesquels il y a des rapports de force, etc. Bon, là c'est hyper détente. On vient, on participe à des ateliers, on écoute, c'est sympa. Voilà quoi. Est-ce que tu participes aux E-Event ? Non, je ne participe pas aux E-Event. Je ne participe pas aux E-Event cette année. J'ai pas été invité. Je crois que les invitations sont parties quand j'étais encore malade. J'ai toujours vu ça comme un moyen de canaliser les jeunes militants sans leur donner une vraie place. Oh, tu trouves ? Les universités d'été ?
Non.
Et tu participes à des universités d'été, du coup ? Oui, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que j'ai été invité cette année, pour la deuxième année consécutive, à participer à des ateliers et à animer des ateliers pour les journées d'été des écologistes. Voilà. Tu peux participer en ligne si tu veux. Non, je ferai pas le The Event en ligne. J'ai déjà fait le The Event en ligne une fois en 2020. C'est pas resté un très bon souvenir, donc j'ai pas envie de refaire. C'est pas grave, je ne suis pas indispensable. Place publique fait un truc, peut-être. Je sais pas. Je t'avoue que je ne suis pas l'actualité de Place publique. Donc peut-être qu'ils organisent un truc. Mais je suis pas au courant. Tu veux pas aller aux amphis de la LFI? Et ils m'ont pas invité, la LFI. Ils m'avaient invité, ils nous avaient invité Usul et moi, il y a quelques années. En 2021, je crois. On y était allé avec Usul. Mais non, ils m'ont pas invité. J'y serais allé avec plaisir, bien sûr. Il y a une grosse interview de Glucksmann d'ailleurs dans Le Point aujourd'hui. Oui, j'ai lu l'interview de Raphaël Glucksmann. Enfin, j'ai lu des extraits. Hein. Dans le train, j'ai lu des extraits de l'interview de Raphaël Glucksmann dans Le Point. Raphaël Glucksmann qui nous propose d'ores et déjà une rentrée politique assez chargée, parce que lui, il veut ni plus ni moins que renverser la France insoumise et lui substituer une social-démocratie. Il croit dur comme fer à la possibilité de la renaissance d'une social-démocratie, le PS de l'époque hégémonique à gauche. Et c'est le combat qu'il entend mener. Bon, bah écoute, très bien. Vas-y, Raphaël. Nous, on va suivre tout ça et commenter tout ça. Est-ce qu'il y a des universités d'été pour les... Est-ce qu'il y a deux universités d'été pour les Républicains? C'est une bonne question. En vrai. Hein, en vrai, c'est une bonne question. J'en sais rien. Je sais pas. T'avais pas posé des congés jusqu'à fin août? Si, si, si. Si, mais je connais mon employeur, il est un peu carré-carré. Hein. Moi, je suis obligé de streamer, hein, tu sais. Sinon, vous renouvelez pas vos subs. Alors, du coup, je perds de l'argent. Alors, du coup, faut streamer pour être belle. Donc, voilà. Ah oui, autre truc à vous annoncer. Zara n'est plus là. Zara, le petit chat, Lopotichat. Lopotichat a trouvé une nouvelle famille d'accueil depuis la semaine dernière. Lopotichat est parti. Lopotichat est parti, ce qui est une bonne nouvelle pour elle, je le souhaite. C'est une personne de la communauté d'ailleurs que je remercie, qui s'appelle Cécile, que j'embrasse très fort. Cécile est comportementaliste animalière, c'est son métier. Et elle sait s'occuper des potichats difficiles comme Zara, qui est très craintive. Et donc elle est venue la chercher la semaine dernière et on a eu énormément de mal à faire rentrer Zara dans sa caisse. Et du coup Zara, pour me dire au revoir, m'a griffé à la main. Là vous voyez les trois traces, ça a bien cicatrisé là depuis. Trois traces de griffure là. J'étais griffé jusqu'au sang et derrière aussi là. J'avais le bras entièrement en sang, c'était tout rouge. C'était horrible. C'était vraiment horrible, ça m'a fait un mal de chien. Et c'était le au revoir de Zara, qui m'en a beaucoup voulu, semble-t-il, de leur ami dans sa caisse. Évidemment, j'ai filé à la pharmacie en disant j'ai été griffé par un chat, j'ai pas envie d'être contaminé par je sais quoi, etc. machin. Ils m'ont dit on peut rien faire, il faut une ordonnance. Du coup, j'ai couru chez un médecin qui fermait ses portes au moment où je suis arrivé. Et le lendemain, je prenais un train. Bon, bah du coup, voilà, j'ai pas pris d'antibiotiques. Mais j'ai mes rappels de vaccins qui sont prêts. Tu l'as enfin touché. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la première et la dernière fois de ma vie que j'ai touché Zara. Ça restera mémorable. Ça risque pas grand-chose, t'inquiète. Oui, non, c'est ce que tout le monde m'a dit. Ça risque pas grand-chose. J'ai désinfecté de ouf. Et là, ça a bien cicatrisé. Pas l'impression d'avoir une infection. Et on verra bien. Tout dans l'exagération. Ouais, exactement. Suffit de bien désinfecter. Ouais, non, j'ai très très bien désinfecté longtemps, plusieurs fois et tout machin. Donc voilà. Tu vas prendre un ours du coup. Ouais, un ours, ça va être plus calme, ouais. Faut mettre le bras dans du riz. C'est les morsures qui sont plus problématiques. Ouais. Ouais, je me doute. C'est pas grave. Bon, donc du coup, c'est bizarre, il n'y a plus de chat à la maison. Du coup, j'ai fait un grand ménage de printemps pour retirer tous les poils qui restaient. Et il en reste encore. Prends un chien, c'est beaucoup mieux. Ah non, 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 pas mon truc, moi, les chiens. Je respecte, hein, pas de soucis, mais. J'en ai jamais eu. Est-ce que tu essaieras de prendre un autre petit chat, du coup? Sans doute, mais plus tard. Là, je vais faire une rentrée tranquille. La rentrée va être chargée, je vais. Voilà. Mmh. Quand le gouvernement sera enfin constitué, retransmettras-tu les QAG sur ta chaîne ? Oui, je pense, oui, je pense. Je pense qu'on continuera et qu'on reprendra la séance des questions d'actualité au gouvernement du mardi, ouais. Bah oui, ça a du sens. Enfin, ça a d'autant plus de sens dans une assemblée aussi divisée que celle qu'on a aujourd'hui. Je pense. Parce que les QAG, ça peut être vite chiant quand on a une assemblée très attendue. Enfin, je veux dire, quand t'as une majorité absolue, bon, t'as un gouvernement, il est soutenu par une majorité qui l'applaudit, il est bolossé par une opposition qui en fait des caisses. Et ça peut être redondant, et ça peut être chiant, et ça peut. Enfin voilà, ça je peux le comprendre. Moi, ça fait 10 ans que je le fais, je connais. Mais là, on a une assemblée nationale très intéressante. À ton avis, de vraies chances que Macron nomme Lucie Castet, honnêtement? Bah. Comment te dire? Non. Non, il n'y a pas de chance qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Castet. Il n'y a pas de chance qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Castet pour la simple et bonne raison que la gauche a 200 sièges au Parlement, la droite en a 350. Bon, quand je dis la droite, c'est vite dit, parce qu'en réalité, la droite, elle est très divisée. Il y a le Rassemblement National, il y a les Macronistes, il y a LR entre les deux. Donc c'est pas un bloc homogène, la droite. Et encore, je mets Emmanuel Macron dans la droite, ce dont on peut discuter si on a envie, mais peu importe, en réalité, peu importe, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de députés opposés à Lucie Castet que de députés qui la soutiennent, c'est ça que je veux dire. Au final, c'est le RN qui décide qui reste ou pas. Non, non, parce que le RN n'a pas la majorité absolue. Le RN seul ne peut pas. Du coup, le NFP a gagné les élections pour rien. C'est ce que je vous avais dit dès le soir des élections. Je vous avais dit, attention, méfiez-vous avec les gens qui disent gagner. La notion de victoire à une élection, c'est quelque chose qui peut être très clair dans une élection uninominale, par exemple une présidentielle. Bon, bah, c'est facile. Celui des deux candidats du second tour qui a le plus de bulletins dans les urnes gagne l'élection. C'est bête et méchant. Il y a un gagnant, un perdant. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Et c'est toutes les élections comme ça. Quand on élit une chambre, la plupart du temps avec un scrutin proportionnel, mais pas toujours, la preuve, un scrutin majoritaire peut aussi donner des résultats surprenants. La plupart du temps, il y a une victoire claire. Et faut reconnaître que la Ve République nous a habitués, vous comme moi, à des victoires claires aux législatives. Vous prenez toutes les élections législatives de la cinquième, il y a toujours un vainqueur. Il y a toujours une majorité absolue. À deux exceptions. 1988, où il y a une majorité relative pour la gauche, avec Michel Rocard Premier ministre. Et en 2022, avec Elisabeth Borne, et une majorité relative de 245 sièges. Mais le reste des élections, bah, ça a toujours été clair. Ça a toujours été clair. 86, Chirac, il a une majorité. Terminé, il a gagné les élections. 93, Balladur a gagné les élections. Il les a gagnées, il a une majorité absolue, c'est réglé. 2007, Sarkozy gagne les élections. 2012, Hollande gagne les élections. Enfin voilà, à chaque fois c'est clair. Et là, en 2024, pour la première fois, on n'a pas de majorité absolue, mais on n'a pas non plus de majorité relative claire. Parce que 2022 était une majorité relative claire. Les macronistes avaient 245 députés et ils étaient de loin le groupe le plus homogène, la coalition en réalité, la plus homogène et la plus nombreuse. Les autres étaient pliés de très loin. Donc c'était une majorité relative claire. Là aujourd'hui, on a une majorité relative peu claire parce qu'on a le nouveau Front populaire qui numériquement a le plus de députés, si on compte tous ses députés. Mais si on prend les macronistes plus les républicains, ils en ont plus que le NFP, ce qu'on a vu le jour de l'élection de Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Et voilà, mais quoi qu'il en soit, une majorité relative peu claire rend difficile d'échapper à des 49-3. Le succès d'Elisabeth Borne, le succès relatif d'Elisabeth Borne, ça a été sa capacité à éviter les motions de censure. C'est ce que le député Hervé Marseille appelait l'onction de censure. J'adore cette expression. C'est exactement ça. L'onction de censure d'Elisabeth Borne. La meuf, elle n'est pas députée parce qu'elle a une majorité absolue. Pardon, elle n'est pas première ministre parce qu'elle a une majorité absolue. Elle est première ministre parce qu'aucune motion de censure n'est adoptée contre elle. En négatif, de fait, elle est première ministre. Alors, c'est pas confortable pour elle, hein. On l'a vu, ça a galéré. C'est pas passé loin à un certain moment sur les réformes des retraites. On était à 8 voix près, 9 voix près, pour une motion de censure. Mais quand même, là, la situation politique qu'on a, elle est complexe. Parce que le NFP est quasiment sûr, avec des insoumis à l'intérieur, de décoper d'une motion de censure avec l'addition des voix des macronistes et du RN. Les macronistes et les LR sont quasiment sûrs d'écoper d'une motion de censure du NFP et du RN. Et le RN, lui, de toute façon, il n'a pas d'allié. Donc, il ne peut pas gouverner. Raison pour laquelle vous avez entendu Lucie Castet, candidate putative au poste de Premier ministre, vous avez entendu Lucie Castet dire « Je trouverai des compromis. Je ferai des compromis. » Et elle dit pas ça parce qu'elle en a envie. Elle dit ça parce qu'elle n'a pas le choix. Si d'aventure Lucie Castet a été nommée Premier ministre, elle devra, dès le jour 1, day 1, elle devra essayer de convaincre les macronistes d'à minima ne pas la censurer. Pas forcément de voter ses textes. Ça, on verra plus tard, ce sera une autre paire de manches. Mais à minima, ne nous censurez pas. Et ça se négocie. Et c'est pas facile. Emmanuel Macron, président de la République, a annoncé que vendredi prochain, il serait. Vendredi prochain, Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée les formations politiques. C'est son rôle de président de la République que de composer un gouvernement, ou en tout cas nommer un Premier ministre, et pour ce faire, il consulte les forces politiques du pays. C'est logique. C'est le béaba, ils font tout ça, c'est normal, ça fait partie du job. Et donc. Le président de la République, vendredi, va recevoir les différentes formations politiques pour discuter avec elles et voir, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous comptez faire, comment vous voulez vous y prendre, etc. Et à l'issue de ces réunions, peut-être ce week-end, dans le courant du week-end, on aura la nomination d'un gouvernement, d'un Premier ministre, pardon. On verra le gouvernement dans un second temps. On verra. Comment il négocie ça ? Une contrepartie ? Absolument. Si tu veux qu'un groupe de députés ne te censure pas, tu dois discuter avec eux, en leur disant « Messieurs, dames, je sais par avance que vous n'aimez pas mon gouvernement, ma position politique, je ne vous demande pas de me soutenir, je ne vous demande pas de faire coalition avec moi, je ne vous demande pas de vous allier à moi. De toute façon, vous ne le ferez pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Par contre, je vous demande quelles sont vos lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges qui feraient, selon vous, qui motiveraient un vote en faveur d'une motion de censure, ou pire, un dépôt de motion de censure ? Et bien là, tu discutes et tu négocies. Et les mecs te disent, bon bah d'accord, pour ne pas vous censurer, nous exigeons que... Voilà, et tu fais la liste. Et ensuite, tu discutes. Tu négocies, tu échanges, tu vois, tu négocies les lignes rouges, tu demandes si c'est vraiment rédhibitoire ou pas. Est-ce que c'est contournable ? Est-ce qu'on peut trouver un accord ? À défaut d'un accord, est-ce qu'une position peut vous convenir ? Etc. Salut Denis ! Ah bah voilà, tu as Denis, il va devoir négocier. Enfin, il va devoir, c'est pas lui qui va devoir, c'est Lucie Castet, si d'aventure elle a été nommée Première Ministre. Mais au demeurant, c'est la même chose pour les macronistes. Si d'aventure les macronistes présentaient une coalition ou un pacte législatif, appelez-le comme vous voulez, avec les Républicains de Laurent Wauquiez, qu'ils se mettaient autour de la table... et qui disait « Voilà, nous avons un gouvernement, mais on n'a que 210 députés qui nous soutiennent », le premier truc que fera le Premier ministre de ce gouvernement, c'est d'aller rencontrer le NFP et le Rassemblement National, dans un second temps, ou dans un premier temps, on s'en branle, pour dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour que vous ne me censuriez pas ?» Donc à voir. Lucie Castet, motion de censure directe. Lucie Castet, motion de censure directe, je ne sais pas, Denis, ça va dépendre de toi. Toi, c'est toi qui es député macroniste, c'est pas moi. Ça va dépendre de toi, de quelles sont tes lignes rouges, de qu'est-ce que tu es prêt à accepter. Ce qu'on a entendu jusqu'à présent de la part des macronistes, c'est « Nous ne soutiendrons en aucun cas un gouvernement au sein duquel il y aurait des ministres LFI. » Voilà. Ça, c'est une ligne rouge qui a été posée par le président de la République, qui a été posée par Gabriel Attal, qui est le désormais chef des députés de l'ancienne majorité, Renaissance, dit s'il y a LFI, nous on vote une motion de censure. Bon, et bah, il va falloir discuter avec les macronistes pour voir si c'est négociable. Est-ce que si on met des LFI à des postes non régaliens, ça vous va? Je dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque de Mitterrand en 81 avec les communistes. Hein. Je vous rappelle que le mur de Berlin n'était pas encore tombé, que l'URSS existait encore, et que quand, pour respecter l'accord du programme commun, François Mitterrand a mis des ministres communistes au gouvernement, la droite, elle a fait ta. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça, il y a des communistes au gouvernement, de la cinquième puissance du monde, puissance nucléaire? Est-ce que ça remet en cause l'Alliance Atlantique? C'était la première question qui a été posée. François Mitterrand, en 81, a rencontré très rapidement après son élection l'ambassadeur des États-Unis. Qui est allé dardard à l'Elysée, qui est allé voir François Mitterrand, qui a fait « Alors, félicitations pour votre élection, monsieur le président. Par contre, c'est quoi ces conneries? Vous allez vraiment avoir des communistes dans votre gouvernement? Parce que nous, vous savez, les États-Unis d'Amérique, on n'est pas chaud pour qu'un de nos alliés principaux avec l'Allemagne en Europe ait des communistes dans son gouvernement. » Et Mitterrand lui a dit deux choses. Il lui a dit « Va te faire foutre ». Et ensuite, il lui a dit « les ministres communistes n'auront pas de poste régalien, ils dirigeront pas l'armée, ils vont pas... Enfin, voilà, c'est pas... Il n'y a pas les chars soviétiques sur l'avenue des Champs-Élysées, ça va pas se passer comme ça. » Et il a dit deuxième chose, la France reste dans l'Alliance Atlantique, les États-Unis sont nos alliés et nos amis, on continue à bosser ensemble, vous inquiétez pas, on ne passe pas de l'autre côté du rideau de fer. Pourquoi je vous disais tout ça? Oui, parce qu'on parlait, voilà, de cette nomination de Premier ministre qui n'en finit pas de ne pas finir. Bon, il y a eu plusieurs noms qui ont circulé dans la presse, notamment le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui est un bonhomme intéressant parce que lui, c'est un républicain de droite, certes, mais qui a construit son identité politique dans l'opposition à Marine Le Pen. Je vous rappelle qu'il a arraché la région Hauts-de-France contre Marine Le Pen en 2015. Et que ça a été un peu son D-Day politique personnel, où il a dit qu'il fallait rebâtir une droite nouvelle sur une base de justice sociale. Pour contrer le vote RN, il faut de la justice sociale dans les territoires ruraux, et c'est ça qui va nous permettre de machin. Donc il a tout un angle politique là-dessus, donc ça pourrait être un point de jonction intéressant entre les macronistes et les républicains. Autour de la personne de Xavier Bertrand. Il y a une autre possibilité que j'ai lue, c'est Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre socialiste à la fin du quinquennat de François Hollande. Bernard Cazeneuve qui pourrait être une tentative d'Emmanuel Macron de diviser le nouveau Front Populaire en disant bah, « si on nomme Bernard Cazeneuve, les socialistes vont avoir du mal à le censurer, parce que c'est quand même un ancien socialiste. » Bon, le PS a répondu « on verra ». On va pas donner une réponse de principe maintenant, on n'est pas sectaire, on va pas dégager Bernard Cazeneuve pour le plaisir de le dégager. On va négocier, encore une fois. Mais Olivier Faure a aussi fait savoir à plusieurs journalistes que, écoutez, il est gentil Bernard Cazeneuve, mais il s'est cassé du Parti Socialiste en 2017. Il y a un moment, nous le présenter comme un socialiste, ça va 5 minutes. Le mec passe son temps à critiquer le nouveau Front Populaire, la NUPES avant lui. Bernard Cazeneuve est un anti-Olivier Faure, qui fait partie de ces socialistes qui détestent Olivier Faure et ses alliances avec les Insoumis, etc. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en interne au Parti Socialiste, il y a des équilibres difficiles. La direction d'Olivier Faure sauve les meubles depuis 7 ans avec des alliances avec les Insoumis que je vous ai expliqué 1000 fois sur les élections législatives, parce qu'ils en ont besoin mutuellement, pas parce que ça leur fait plaisir. Et au sein du Parti Socialiste, il y a aussi toute une partie du PS qui reproche à Olivier Faure ses alliances avec les Insoumis, en disant « tu nous mets dans la merde, on perd en crédibilité, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, etc. Vaut mieux suivre Glucksmann, qui lui propose le renouvellement d'une social-démocratie, qui fait une séparation nette avec les Insoumis, etc. Bon. » Et Bernard Cazeneuve fait partie de ces gens-là. Alors Bernard Cazeneuve n'est plus au Parti Socialiste, mais il fait partie de ces gens-là. Donc, dire à Olivier Faure qui vient de sauver les meubles. Alors, Olivier Faure n'a pas seulement sauvé les meubles. Olivier Faure a multiplié par 2 le nombre de députés de son parti. Pardon. Mais c'est pas dégueulasse. Olivier Faure, il sort de la séquence politique actuellement plutôt renforcé. Avant, on l'accusait en interne au Parti Socialiste, on lui disait « Oui, Olivier, tu as mis le Parti Socialiste à la remorque des Insoumis. » Pourquoi ils disaient ça? Parce que les insoumis avaient 80 députés et les socialistes en avaient moins d'une trentaine. Une petite trentaine. Donc le rapport de force, machin. Séquence des élections européennes, comme vous l'avez entendu, le Parti socialiste, par la candidature de Raphaël Glucksmann, passe devant les insoumis. Et 3 semaines plus tard, élections législatives, les socialistes multiplient par 2 leur nombre de députés, se retrouvant au niveau similaire de celui des insoumis. Là, Olivier Faure, il retourne devant son conseil national au Parti Socialiste et il dit « Écoutez, les camarades, vous êtes gentils de m'insulter toute la journée parce que j'ai fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon, mais je viens de multiplier par 2 le nombre de députés du parti. Donc, niquez-vous, en fait. Donc, Bernard Cazeneuve, t'es gentil, mais je vais pas te soutenir, en fait. Bernard Cazeneuve, c'est pas le mec qui a tué le PS quand il était PM. Non, il a pas eu le temps. Bernard Cazeneuve, il est resté Premier ministre pendant très peu de temps. C'était la toute fin du quinquennat. Donc non. Est-ce que c'est vraiment Faure le responsable du double de députés? Bah non, c'est les électeurs, par définition, parce que c'est eux qui ont décidé. Mais Olivier Faure, c'est lui qui a négocié le NFP. Je vous rappelle que la différence entre le NFP et la NUPES, c'est que avec le NFP, les insoumis ont perdu une centaine de circonscriptions. Le NFP, c'est la NUPES, mais avec moins d'insoumis et plus de socialistes. C'est Olivier Faure qui a négocié ça. Et il l'a négocié fort de son... La blague est géniale. Fort de son bon résultat aux élections européennes. C'est le fameux « le rapport de force s'est inversé » de Raphaël Glucksmann. Quand Raphaël Glucksmann dit « le rapport de force s'est inversé », il fait référence à ça, en disant « attendez, la gauche française a été recomposée, désormais le PS est devant, avec 14%, et les insoumis sont derrière, avec 9%, 9-10%. Donc on ne va pas refaire la NUPES. Bah non, on va faire le nouveau Front Populaire, qui n'est pas la NUPES, qui est plus socialiste et moins insoumise. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, et ça a donné le résultat que vous connaissez avec un nouveau Front Populaire composé de 200 députés. Et le NPA en plus. Le NPA n'était pas signataire du nouveau Front Populaire, cher Denis. Le NPA n'était pas signataire du nouveau Front Populaire, le NPA a décidé de son propre chef de soutenir le nouveau Front Populaire, c'est pas la même chose. Et ils ont obtenu une circonscription perdante. Pas ouf la négo. En même temps, le NPA, j'ai envie de dire, ils font 1% à chaque élection présidentielle, ils sont pas vraiment en position de force pour négocier des circos. Gagnante. Et par ailleurs, c'est pas le nouveau Front Populaire, vous avez raison de le préciser, ce n'est pas le nouveau Front Populaire qui a investi Philippe Poutou, c'est la France Insoumise, qui, sur son quota de circo, a décidé d'en réserver une à Philippe Poutou. Du coup, pourquoi le titre du stream SVP? Alors, parce que dimanche dernier, à la surprise générale... Non, mais en fait, c'est un peu quand même. À la surprise générale, une tribune a été publiée dans la Tribune Dimanche. Vous savez, la Tribune Dimanche, c'est un nouveau hebdomadaire du dimanche qui a été lancé par Rodolphe Saadé, très proche d'Emmanuel Macron, pour contrer le rachat du JDD par Bolloré. On s'en branle, on s'en fout complètement du journal. En l'occurrence, ils ont choisi la Tribune Dimanche. Ils auraient pu le faire dans l'UMA, non, dans l'IB non plus. Il leur reste plus que la Tribune Dimanche. Ils ont choisi la Tribune Dimanche, les Insoumis, pour publier une tribune co-signée par Jean-Luc Mélenchon, chef. Il a plus de titre officiel, mais enfin bon, c'est voilà quoi. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et Manuel Bompard, coordinateur national du parti. Et ils ont tous les trois publié une tribune dans laquelle ils annoncent que si le président de la République ne nomme pas Lucie Castet Premier ministre, alors les insoumis à l'Assemblée nationale enclencheront une procédure de destitution du président de la République. Parce que la France Insoumise estime qu'il est du devoir du président de la République de nommer Lucie Castet Premier ministre. compte tenu du fait qu'il revendique une victoire aux élections législatives. Je vous ai parlé tout à l'heure de la notion difficile de victoire en matière d'élection d'une assemblée. Mais en tout cas, le fait est que la France Insoumise revendique la victoire. Alors, pas la France, non. La France Insoumise revendique la victoire pour le NFP. Et donc, la France Insoumise menace de destituer... Enfin, non, pas de destituer, d'enclencher une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, estimant qu'il est du devoir du président de la République de nommer Lucie Castex. La procédure de destitution du président de la République est prévue par l'article 68 de la Constitution. C'est une nouveauté dans la Constitution qui a été introduite en 2008 avec la réforme portée par Nicolas Sarkozy et qui prévoit une procédure qui permet, hypothétiquement, parce que ça n'a jamais existé, de destituer un président de la République. C'est une procédure que je vais vous détailler mais qui n'est pas très compliquée. Mais avant ça, l'article 68 de la Constitution précise très clairement dans quel cas on peut destituer un président de la République. Et le cas en question, si je me souviens bien du texte, c'est en cas de manquement grave, en cas de manquement manifestement grave, je ne sais plus, à ses devoirs. Si un président de la République manque manifestement à ses devoirs, alors il peut éventuellement faire l'objet d'une destitution. Manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. T'as raison, je cherchais le incompatible. Je savais qu'il me manquait un mot. Donc voilà. C'est flou. On va pas se mentir, c'est flou. Ça fait partie de ces articles dans la Constitution, comme l'article 16 que je déteste. Pour les mêmes raisons, c'est flou. Ça veut dire quoi, un manquement grave? Un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? Eh ben, c'est pas précisé. C'est pas précisé et c'est justement laissé à la libre appréciation des personnes qui examineront ou examineraient une procédure de destitution. Donc à débattre. À débattre et à discuter. Toujours est-il que pour que la haute cour soit constituée et commence à travailler, il faut qu'il y ait un vote des deux tiers à l'Assemblée nationale et un vote des deux tiers au Sénat. Manière de dire que il faut que le président de la République est tellement merdé, genre ça pète aux yeux de tous, genre c'est évident qu'il a merdé, que des députés, y compris du parti du président, sont prêts à voter une destitution. C'est à peu près ça, quoi. Genre, faut imaginer, je sais pas, un président de la République qui s'enferme dans son bureau et qui refuse de promulguer les lois, par exemple. Un président de la République qui ne dirige pas les armées. Je sais pas pourquoi, mais il faut imaginer. Un président de la République qui ne représente pas la France à l'étranger. Genre, je m'en fous, je vais pas au G7. Je m'en fous, je vais pas au G20. Je m'en fous, je vais pas au Conseil européen. Je vais relancer une game de LOL. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce genre de cas. Est-ce que Emmanuel Macron manque à ses devoirs en ne nommant pas Lucie Castex à Matignon? La France Insoumise le pense. Mais à peu près tout le monde du reste pense que non. Tous les autres disent non. Non, il manque pas à ses devoirs. Il prend son temps, mais la Constitution le lui permet, d'une part. Et d'autre part, il procède à des consultations. Là, vendredi, il y a une réunion prévue avec les représentants des différentes forces politiques au Parlement. Le président de la République est dans son rôle. Donc voilà, les consultations au bout de 2 mois. Alors, on peut discuter, si vous voulez, du délai, en trouvant que ça fait long, mais en même temps, je vous invite à remarquer avec moi qu'il n'y a pas de session du Parlement. Le Parlement n'est pas en session. Donc, en réalité, qu'il y ait un gouvernement qui expédie des affaires courantes ou pas, ça ne change rien, là, actuellement. Techniquement, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas de gouvernement. Ça fait chier politiquement. En fonction des camps politiques. Mais fondamentalement, il n'y a pas de session. Hein. La session, elle reprend le 1er octobre. Donc bon. Pourquoi le Parlement n'est-il pas en session? Il est en vacances. Oui. Oui, le Parlement ne se réunit en session ordinaire que du 1er octobre à la fin du mois de juin. Et entre-temps, pendant l'été, il peut éventuellement être convoqué en session extraordinaire sur décision du président de la République, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Hors session, on peut censurer quand même? Ah non. Ah non, 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 il n'y a pas de motion de censure là. Hein. Les députés ne sont pas à l'Assemblée. À l'Assemblée, il n'y a personne, il n'y a pas un rat. Il y a son père à l'Assemblée. L'Assemblée ne travaille pas. Elle n'est pas en session. Donc il n'y a pas de dépôt de proposition de loi, il n'y a pas de dépôt d'amendement, il n'y a pas de dépôt de motion de censure, il n'y a pas de dépôt de 49.3 de je sais pas quoi. Il y a rien. C'est les vacances, il ne se passe rien. On est hors session. Par ailleurs, sur la question de la nomination d'un Premier ministre, alors il y a aussi le fait, donc du coup, effectivement, tu as deux arguments. Tu as le côté, Emmanuel Macron ne nomme pas de Premier ministre. Et c'est pas bien. Et on peut en discuter. Le président de la République ne nomme pas de Premier ministre. Est-ce que c'est un manquement à ses devoirs, etc. On peut en discuter. Mais ce que dit la France Insoumise dans sa tribune, c'est il faut pas seulement qu'il nomme un Premier ministre, pardon. Il faut qu'il nomme Lucie Castet. Précisément Lucie Castet. Et la France Insoumise dit, nous menaçons de destituer le président de la République, en tout cas d'essayer de le faire, s'il ne nomme pas Lucie Castet. Mais la réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne te plaît pas, ce n'est pas la destitution du président de la République. C'est la motion de censure. Le mécanisme prévu par la Constitution pour se plaindre d'un Premier ministre, c'est la motion de censure. Si Lucie Castet n'est pas nommée, est-ce que le NFP envisage de former un shadow cabinet? Ah, ce serait une bonne idée, je pense. Oui, ce serait une bonne idée. Un shadow cabinet, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du Royaume-Uni où le parti d'opposition, parce qu'il y a un bipartisme au Royaume-Uni, le parti d'opposition a un shadow cabinet, c'est-à-dire un gouvernement fantôme composé de députés prétendants à la fonction qui ont pour boulot de faire des propositions de loi et de critiquer l'action du gouvernement dans son couloir de nage. Un contre-gouvernement. Oui, t'as raison, un contre-gouvernement, c'est mieux que gouvernement fantôme. T'as raison, contre-gouvernement. Bref, ça on verra. On verra, abonnez-vous à ma chaîne, on va en discuter évidemment. On suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt dans les prochains mois parce que je vous promets une année qui va être rock'n'roll. À propos d'amendements, je remercie Goethe, Oxytocine, Donny, Yaib4, Studio, Octet, 8, 8tet, pardon, Devoc, Bastille, Amish Molette, Alexis, Pinky Panda, Kaylan, Mister Ronchon, MT Maker, Wooly, Ekets, Unimaster, Haldan, Slade, 16, Fish Drake, Lester Little, Docteur, Mister Margouya, Lady D, Simon Sonic, Gui, Seud, Madinirim, Creatix, CCD, Le Texan, Azra, Genji, Enexam, Azarn, Marielle, Chocopotkin, Tibara, Ghana, Lamentin, Dams, W Laplace, Davidou, Les Bubules, Wigo, etc. Désolé si je ne vous ai pas donné votre nom, mais je penserai à vous et je vous aime d'un amour infini. Le PS a-t-il intérêt à rejoindre le camp macroniste dans un futur proche? Ça dépend ce que tu entends par rejoindre. Faire alliance, probablement pas. Négocier pour ne pas voter une motion de censure, pourquoi pas? Ça peut se discuter. De se dire, c'est exactement la discussion que j'avais tout à l'heure avec vous, où je vous disais, un Premier ministre macroniste là, qui serait nommé dans les prochains jours devra aller voir les socialistes en leur disant, bon les amis, enfin les amis, pas camarades mais pas déconner, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être censuré par vous? Voilà, dites-moi. Et là les socialistes, bah, ils vont poser leurs conditions. Il faut que vous fassiez ça, il faut pas que vous fassiez ça, il faut que machin, etc. De toutes les manières, en réalité, que cette négociation ait lieu ou pas, tout va se jouer au moment du vote du budget. Parce que c'est dans le vote du budget que les choses vont se négocier. Le PS doit disparaître. C'est marrant, tu disais pas ça en juin quand t'avais besoin de leur vote. Ils les consultent ensemble ou à tour à tour? Non, tour à tour. C'est un travail parlementaire basique, hein. C'est un travail vraiment parlementaire basique, hein. Le Premier ministre, il négocie, il discute. Il va voir les formations politiques, il dit bon, bah voilà. Voilà mon projet de budget, voilà ce que je prévois de faire, voilà ce que j'ai envie, machin, etc. Et les partis lui répondent, ils disent, bah nous on n'est pas d'accord, nous on veut que vous augmentiez le budget de telle administration. Le Premier ministre il dit ok, très bien, je veux bien, mais où est-ce que je les trouve les ressources supplémentaires? Il dit, bah vous avez qu'à augmenter les impôts sur telle catégorie de la population. Et c'est une négo en fait. C'est une négo, c'est la vie d'un parlement dans toutes les démocraties d'Europe. En cas de blocage pour le budget, comment ça se passe, N-1? Alors je crois qu'il y a plusieurs techniques, je crois qu'il y a, oui, il y a l'application du budget précédent N-1, mais il y a aussi la possibilité ouverte par la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui permet de faire passer par ordonnance les autorisations de crédit. Donc ça règle pas la crise politique, mais ça permet de payer les fonctionnaires, quoi. Éviter le lockdown qu'il y a aux États-Unis par exemple. En France, on a des mécanismes qui permettent d'éviter le lockdown. Pauvres fonctionnaires, c'est pas à eux de payer pour, pour le bordel au Parlement. Ordonnance article 38. Ouais. Article 38, c'est pas le domaine réglementaire? Non, c'est article 37, le domaine réglementaire. Le Conseil constitutionnel permet au gouvernement de permettre de payer les fonctionnaires par la voie réglementaire. Oui, c'est ça. Oui, donc tu passes par un système d'ordonnance. Si j'étais député, j'irais pas en commission des finances, ça va être chargé et compliqué. Ah, mais c'est le meilleur endroit, Denis, la commission des finances. Commission des finances, commission des lois, c'est les deux meilleurs. Je déconne. Les autres sont bien aussi. 34 et 37, la combinaison des héros. Ah là là, le domaine de la loi, le domaine réglementaire. Toutes mes révisions. Donc voilà où on en est, dans une situation qui n'est pas encore bloquée, qui semble-t-il va avancer vendredi avec la réunion entre le président de la République et les forces politiques. Putain de sa race, je rêverais qu'un jour il y ait une caméra dans ce bureau. Il n'y en aura jamais, évidemment, vous en doutez bien, mais putain, si je pouvais être une petite souris. Oh, je me faufilerais sa race dans ces réunions. Ça et le Conseil des ministres. Ça, c'est les deux trucs où je veux des caméras. Moi, je veux des caméras au Conseil des ministres. Je serai jamais écouté. Personne n'en mettra jamais. Je me demandais, le Parlement est-il rémunéré pendant la période estivale où il n'est pas en session? Oui, non, la rémunération des députés n'a rien à voir avec la session ou pas de session. Chacun ses kinks. Ah ouais, chacun ses kinks. Ah non, mais moi j'assume d'avoir des kinks bizarres. Hein. Mais c'est moi je bosse pour vous. Hein. C'est parce que j'ai ces kinks-là que vous m'aimez bien. J'espère. C'est pas une rémunération. Si, Denis, c'est une rémunération. C'est pas un salaire. C'est un dédommagement. C'est pas une allocation non plus. J'ai perdu le mot. Là, tu m'as perturbé, Denis. C'est pas un traitement, c'est une indemnité. Merci, les amis. C'est une indemnité. Les élus perçoivent une indemnité. Ce n'est pas un salaire. C'est une indemnité. Mais c'est un revenu. Du coup, ils ont 3 mois de vacances. Ouais, enfin bon, je veux dire, la notion de vacances pour un député, elle est particulière. Alors j'espère évidemment que les députés passent un petit peu de temps en famille quand même, parce que vous savez, le reste de l'année, c'est pas facile pour les députés. On en a déjà parlé de ça. Donc j'espère qu'ils soufflent aussi un peu, parce qu'on a, voilà, l'année politique est chargée. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a les universités d'été des partis politiques, il y a la préparation des congrès de certains partis politiques, il y a des négociations pendant l'été pour la formation d'hypothétiques gouvernements. Donc moi je pense que la majorité des députés, en tout cas ceux que je connais, ils ont passé l'été au bord de la piscine, mais à textoter toute la journée pour participer aux discussions et aux négociations. Bon bah. J'arrive en retard, ça se base sur un vrai truc, la destitution ou c'est un coup médiatique? Oh, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. La décision du président de la République, elle est promise par la France insoumise si d'aventure Emmanuel Macron ne nommait pas Lucie Castex première ministre, mais elle a peu de chances d'aboutir. Donc, il y a des gens qui se posent la question, j'ai vu pas mal de journalistes se dire, bon, et pourquoi ils font ça les insoumis? Pourquoi est-ce qu'ils menacent de destitution le président de la République alors qu'il n'a même pas encore rencontré Lucie Castex? Est-ce que c'est pour se garantir que Lucie Castex ne sera sûrement pas première ministre? C'est vrai que si tu veux empêcher Lucie Castex d'être première ministre, c'est une bonne technique de menacer la destitution. Mais bon, est-ce que c'est une volonté de faire éclater le nouveau Front populaire? Je pense pas. Je pense pas que la France insoumise ait pour volonté de faire éclater le Front populaire. La question reste posée de savoir c'est quoi le Front populaire. Est-ce que le Front populaire, c'est une alliance électorale pour les législatives qui ensuite n'a pas de réalité au Parlement parce qu'ils font groupe à part, les groupes de gauche? Ou est-ce que c'est une cohésion programmatique qui a vocation à vivre au Parlement? Les insoumis, ils ont dégainé leur tribune sans prévenir les autres. Enfin, Manuel Bompard a envoyé un texto la veille au soir. Bref, ils n'ont pas coordonné leur attaque. Ils ont fait ça dans leur coin, en dégainant un truc avec une tribune sans prévenir les autres. C'est pas très NFP, ça. Obliger le PS à se positionner. Ouais, obliger le PS à se positionner. Donc à ce moment-là, ça veut dire que le but du jeu, c'est de créer un rapport de force à gauche. Mais le truc, c'est que les insoumis, au sein du NFP, ils sont minoritaires. Si tu agrèges les socialistes, les communistes et les écolos, bah, ils sont plus nombreux que les insoumis. C'est pour ça, rappelez-vous, qu'Olivier Faure avait proposé de désigner le candidat Premier ministre du NFP par vote. En disant, bah, c'est pas compliqué, on est 200 députés de gauche, votons. Votons pour notre candidat Premier ministre. Évidemment, il faisait ça, il savait très bien pourquoi il faisait ça, Olivier Faure, il voulait pas vraiment voter. Il voulait juste menacer les insoumis en disant, hey, les gars, je vous rappelle, vous n'êtes pas majoritaire. S'il y a un vote, c'est pas vous qui allez gagner. Donc venez, on se met d'accord. Morale de l'histoire, ils se sont mis d'accord. La France insoumise a voté, a pas voté, pardon. La France insoumise a dit oui au profil de Lucie Castex. Lucie Castex qui n'est pas une insoumise. Lucie Castex qui est une ancienne membre du cabinet d'Anne Hidalgo, socialiste. Et socialiste, pas super Olivier Faure. Plutôt Bernard Cazeneuve. Ou Carole Delga. Ou Raphaël Glucksmann. Bref. Donc, les insoumis, ils ont fait un compromis. Pour ceux qui disent que les insoumis sont des espèces de staliniens incapables de faire des compromis, c'est pas vrai. Les insoumis font des compromis. Ils en ont fait deux, déjà, bien connus. C'est la NUPES et le NFP. C'était des compromis avec les socialistes. Parce qu'ils n'ont pas le choix, exactement. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Compromis ou instinct de survie? Ouais, les deux. Bah, c'est pas la survie de la France insoumise qui est en cause, mais c'est sa capacité à peser. Et c'est normal, c'est naturel pour un groupe politique d'essayer de peser. C'est la base. Heureusement qu'on essaie de peser quand on fait de la politique, c'est même le principe. Les insoumis, sans les socialistes, c'est 17 députés. Les insoumis avec les socialistes, c'est 80 députés. Les insoumis, ils sont pas cons, hein. Ils savent où est leur intérêt. Donc, après avoir promis pendant 10 ans qu'ils ne feraient pas d'alliance avec les socialistes, ils font une alliance avec les socialistes. Ben oui, ils sont pas cons. L'inverse est vrai. L'inverse est vrai aussi. les socialistes sans les insoumis, c'est 30 députés. Les socialistes avec les insoumis, c'est 30 députés aussi. Mais dans ce deuxième cas, c'est plutôt un miracle. Parce que je vous rappelle quand même qu'Anne Hidalgo a fait 2%. Avoir 30 députés quand tu fais 2% à la présidentielle, c'est pas mal. On va pas se mentir, c'est pas mal. Tu souffles. T'avales ta salive, mais tu souffles. Qu'est-ce que tu racontes? Je te raconte les résultats des élections législatives de juin 2017 et de juin 2022. Va vérifier si tu veux. Les insoumis sont passés de 17 à 80 députés. Et la différence entre les deux, ça s'appelle la NUPES. Et la NUPES est un accord électoral entre les insoumis et les socialistes, avec les écolos et les communistes aussi. Ils auraient augmenté sans le PS. Peut-être, mais ils n'ont pas voulu prendre le pari. Ils sont obligés de faire vivre le NFP car dissolution dans un an. Oui, en plus, t'as raison. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Dissolution dans un an. À chaque fois, je l'oublie, celle-là. Du coup, sans la NUPES, le PS aurait eu genre 6 députés. Alors, ils en avaient 30. Ils en avaient 30, mais avec la NUPES, oui, t'as raison, oui, bien sûr. Non, non, attendez, ce que je viens de vous dire sur les insoumis et les socialistes est valable dans l'autre sens. Les socialistes n'ont pas fait des bisous sur la bouche aux insoumis par plaisir, ni par amour, mais par nécessité. La NUPES et le Nouveau Front Populaire sont des alliances de raison entre des adultes qui voient arriver gros comme une maison une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par circonscription avec maintien avec 12,5% des inscrits. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire, vous inquiétez pas, eux ont très bien compris ce que je viens de dire. Tu as besoin de te mettre d'accord avec tes alliés avant l'élection, sinon tu te gênes dans les circonscriptions et personne n'est élu, t'as l'air trop con. C'est ça une élection législative, c'est pour ça que la NUPES est née, c'est pour ça que le NFP est né. On a plus intérêt à se mettre d'accord qu'à se faire la guerre. Chose intéressante que je soumets à votre sagacité. La proportionnelle qui est promise par la gauche ferait disparaître le NFP. Une élection proportionnelle, t'as pas intérêt à te mettre d'accord avec les copains avant. Non. Chacun se présente. Regardez les européennes. Chacun se présente. Pas besoin de faire une alliance. C'est une proportionnelle. Donc, c'est ce qu'avait dit le professeur de droit public. Ah putain, j'ai oublié son nom. Qui disait scrutin majoritaire, on négocie avant les élections. Scrutin proportionnel, on négocie après les élections. Comme en Allemagne. Tu promets monts et merveilles à tes électeurs avant les élections, et puis une fois que les élections sont terminées, tu vas négocier ton programme avec les autres en disant « Bon, on se met d'accord pour faire une coalition gouvernementale ?» Et là, ça commence. La proportionnelle n'exclut pas le besoin d'un cordon sanitaire. Ah bah ça dépend. Tu parles du Front républicain. Cordon sanitaire, c'est autre chose. Enfin, c'est proche, mais c'est autre chose. Ça dépend, par exemple, si tu fais une proportionnelle avec des listes par département. Où là, tu peux avoir des intérêts. En fait, tout dépend de comment tu la crées, ta proportionnelle. Si tu crées, par exemple, une proportionnelle avec maintien, avec élection, seulement si tu as 5% des voix. C'est comme aux européennes. Bah, là, du coup, ça peut être intéressant de faire alliance. Parce que si tu es un petit parti qui est genre à 3-4% d'intention de vote, t'as plutôt intérêt à te mettre avec un autre pour avoir quelques sièges, te les garantir à peu près, plutôt que de partir tout seul, quoi. Alors après, t'as une autre possibilité, puisque je vois que vous êtes taquin sur la proportionnelle, vous avez bien raison. Tu fais comme au régional, tu fais une proportionnelle avec prime majoritaire. Ça pique. La prime majoritaire, c'est un système qui permet d'éviter Le drame de la proportionnelle, c'est la dislocation des sièges dans l'Assemblée qui rend le truc ingouvernable. Ce que tu peux faire, c'est dire, on fait une proportionnelle. Par contre, le parti politique qui arrive en tête, il a automatiquement X% des sièges pour lui. Et le reste des sièges est réparti à la proportionnelle. C'est un peu raide. Mais ça marche dans les régions. Enfin, ça marche plus ou moins. Ça dépend des régions, parce qu'il y a des régions un peu ingouvernables selon les coalitions. Pas ouf, je trouve. Ça se discute. Ça se discute. Il faut définir ça marche, tu as parfaitement raison. Non, mais c'est vrai, en vrai t'as raison. Je dis ça marche, mais faut voir quels sont les critères qu'on détermine pour dire si quelque chose marche ou pas. Avec cette méthode, le RN aurait reçu la prime majoritaire. Oui, alors là je vous invite à faire attention, parce que vous êtes en train de faire des projections de résultats de scrutin majoritaire sur une hypothétique élection proportionnelle. Méfiez-vous, méfiez-vous. Là on rentre dans ce que les statisticiens vous interdisent de faire. Mais oui, si le RN était arrivé en tête, comme par exemple aux européennes, avec ses plus de 30% des voix, il aurait eu automatiquement X% des sièges. Alors X, ça peut être 25%, ça peut être 50% si vraiment t'es un bourrin. Mais ça peut. Ouais. Ouais, le RN aurait été garanti de gouverner, ouais. Si on change les règles du jeu, la partie n'est pas la même, exactement. Les comportements des acteurs changent. Parce que je vous rappelle que c'est exactement ce que je vous explique avec les négociations des proportionnelles et des majoritaires qui ont lieu avant ou après les élections. C'est simplement qu'en réalité, les règles du jeu électoral définissent les comportements des acteurs. C'est parce que les élections législatives se font au scrutin majoritaire uninominal à deux tours par circonscription avec maintien au second tour à 12,5% des inscrits que la NUPES et le NFP sont nés. Sans ça, il n'y avait pas besoin. Faut pas oublier que c'est la proportionnelle qui a fait entrer 35 députés FN à l'Assemblée nationale en 86. Parfaitement, tu as parfaitement raison. Ça avait beaucoup gueulé à l'époque, mais les socialistes, la gauche, avaient mis la proportionnelle parce que c'était dans le programme commun. C'était une promesse de campagne. Ils avaient dit on fera les élections à la proportionnelle. Parce que la gauche est toujours historiquement opposée au système très gaullien du scrutin majoritaire. Mais bon, vous avez fait une proportionnelle intégrale et le FN était entré à l'Assemblée avec 35 sièges et tout le monde avait dit bah, bravo la gauche, super, grâce à vous le FN a des sièges à l'Assemblée, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1944. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, c'était une critique. C'était une critique à l'époque, ouais. Mais bon, j'ai envie de te dire. Moi, non mais en vrai, parlons-en, parce que moi, j'ai grandi pendant des années avec l'idée que le scrutin majoritaire, c'est le meilleur rempart au Front National. C'est parce qu'on a un scrutin majoritaire par circonscription qu'on se garantit le fait de ne pas avoir de fachos à l'Assemblée nationale. Et ça a été vrai. Ça a été vrai pendant 60 ans. 70 ans. Sauf que je suis désolé, mais le monde a changé et aujourd'hui. Le scrutin majoritaire n'est plus une barrière au Rassemblement national. C'est plus vrai. Ça l'a été, c'est plus vrai. Ils ont même failli gagner, s'il n'y avait pas eu de Front républicain et de sursaut entre les deux tours. Proportionnelle complète, tu peux être député avec 0,2% des électeurs, vrai risque d'avoir des élus qui représentent des minorités. Oui, alors après, on peut en discuter, parce que ça peut être intéressant d'avoir des élus qui représentent des minorités. L'autre risque que tu as avec ce genre de truc-là, c'est que tu encourages la création de partis politiques. Genre, chacun a intérêt à créer son petit parti. Parce que t'es sûr d'être député, en fait. Même avec 0,2% des voix, t'as un siège. Et le problème, c'est que tu peux vite avoir une assemblée où il n'y a que des Parisiens dedans. Il n'y a que des apparatchiks, etc. Il n'y a aucun élu corse, aucun élu breton. Enfin, tu vois, tu risques d'avoir des trucs comme ça. Donc, ce genre de distorsion, tu peux les régler par des règles. Justement, j'en parlais tout à l'heure de proportionnel par département, par exemple. Tu fais des listes départementales ou régionales. On peut imaginer plein de trucs, mais bref. Non, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je parlais de la proportionnelle. La proportionnelle, c'est pas bien parce que ça permet au FN d'avoir des sièges. Ça a été vrai pendant 30 ans comme argument, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Regardez, le scrutin majoritaire permet au RN d'avoir le premier groupe à l'Assemblée. Donc. Donc bon. Et puis par ailleurs, là aussi je suis désolé, deuxième argument qu'on m'a appris, la proportionnelle, c'est le régime des partis et c'est la disparité des sièges à l'Assemblée nationale. La proportionnelle empêche d'avoir des majorités claires. Bah. Voilà. Je vous présente l'élection législative de juin 2024. Ben, on a l'air bien con. C'est pour ça que. Moi, c'est ce que je vais dire aux écolos ce week-end, hein, qui m'ont invité pour parler de ça. Je vais leur dire, hé, les gars, en vrai, ça sert à quoi de faire la proportionnelle? Vu qu'on a déjà tout. On a les fachos à l'Assemblée et aucune majorité absolue. Ça sert à quoi de faire la proportionnelle, en vrai? Ça a changé quoi? Tu vas aux amphis? Non, je vais pas aux amphis, j'ai pas été invité cette année. Par contre, j'ai été invité par les écologistes pour animer des ateliers à leur journée d'été. Donc j'y vais là vendredi, samedi, dimanche. Troll de qualité. Ah ouais, troll de qualité. C'est quoi les amphis? Pardon, les amphis, c'est le nom des universités d'été de la France insoumise. Ça s'appelle les amphis. C'est un jeu de mots avec phi. Bon, tu l'as. Et ça a lieu à Valence. J'y étais allé, j'avais été invité il y a quelques années. 2021, je crois. Je suis plus trop la politique, c'est pour quand le nouveau gouvernement? Soon. Alors, comment te dire? C'est une bonne question que tu poses. Si t'as le 06 de Manu, moi je l'ai pas. J'ai ouais, le numéro de Gabriel Attal, mais lui, c'est pas de sa responsabilité, donc il n'en sait rien. Je te le passe pas. Je suis en train de DL, je crois, c'est un gros fichier. Ça flex fort. Ouais, non, ça flex, c'est de la merde. En plus, c'est vraiment à chier comme flex de dire que j'ai des numéros de téléphone. C'est nul. Après la deuxième dissolution en 2025. C'est vrai, en juin 2025, on a peut-être un gouvernement. Il va attendre le dernier moment. Au demeurant, a-t-il tort? Il y a un moment. On fait de la politique, les gars. Hein. Mettez-vous à la place d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a intérêt à nommer un Premier ministre rapidement? Bah, peut-être pas, non. Peut-être qu'il a intérêt à arracher le maximum de compromis avant? À un moment, pense au pays un peu. Bah. Encore une fois, les gars, il n'y a pas de session parlementaire. Le Parlement n'est pas en session avant le 1er octobre. Qu'il y ait un gouvernement ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il va en falloir un pour le budget, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vote dans le chat, c'est pour quand le gouvernement? Allez, vous pouvez voter. Demain, après-demain, en septembre, gouvernement démissionnaire, infini, Obi-Wan Kenobi. Voilà, vous choisissez, vous pouvez voter. Il faut préparer le budget. Bah, de toute façon, le budget, il est en cours de préparation actuellement, hein, par Bruno Le Maire, parce que c'est son rôle. Mais de toutes les manières, le budget, c'est pas la préparation qui compte. C'est les négociations à l'Assemblée. Ton budget, il va se faire charcuter, hein, qui que tu sois d'ailleurs. Donc, bon. Tu peux préparer un projet de budget, hein. Tu peux préparer un projet de budget, mais de toute façon, c'est une copie qui va se faire éclataxe par le Parlement, donc bon. Ce n'est plus à Bruno Le Maire de faire le budget. Bah si, Bruno Le Maire, il est toujours ministre des Finances, démissionnaire. Mais il lui revient de préparer la mouture. D'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis et qui disent que Bruno Le Maire, il prépare un budget macroniste. Oh putain. Oh, ça me fait bizarre de l'apprendre, celle-là. Libre au nouveau gouvernement de faire des mises à niveau. Mais oui, bien sûr, t'as raison, Denis. Évidemment. Évidemment. Je veux dire, si Lucie Castel... Encore une fois, tiens, on reprend l'hypothèse. Lucie Castel, elle est nommée première ministre, là, dimanche 25. Ce dimanche. Lucie Castel, première ministre. Félicitations, Lucie, génial. Elle va à Matignon, tout ça. Elle nomme un ministre du budget, qui donc va remplacer Bruno Le Maire. Le ministre du budget, il va à Bercy. Il serre la main de Bruno Le Maire, il dit merci, voici ton bureau, il est super, ouais, c'est génial. Et toi, il s'installe. Qu'est-ce qu'il fait, le nouveau ministre du budget de gauche? Eh ben, il convoque les directeurs d'administration centrale de Bercy. Il leur dit, bon, les gars, on va changer le budget, en fait, sur lequel vous bossez. Et on va faire des arbitrages différents. Donc, je veux une augmentation du SMIC, je veux plus d'impôts, machin, je veux la création d'un ISF climatique, je veux l'augmentation de machin de trucs, l'augmentation du point d'indice. Ça va faire cher, mais voilà. Et puis bah, les fonctionnaires, ils font leur boulot, ils font OK, d'accord. Oui, chef. Oui, chef, ça part. Bruno Le Maire a fait tellement de merde sur le budget qu'on le laisse encore faire. Mais ça, c'est un point de vue politique. C'est, encore une fois, c'est au Parlement d'en juger. ISF climatique. Oui, l'ISF climatique, c'est pas dans le programme du NFP, l'ISF climatique? Ou alors j'ai mal lu? Mais si, c'est dans le programme du NFP. Ah non, c'est un ISF normal pour l'NFP? Oh. Y a-t-il une incompatibilité entre présidence de région et député? Le cas échéant, comment fait Lorenzo Wauquiez pour se maintenir? Bonne question. Oui, il y a une incompatibilité, c'est ce qu'on appelle l'interdiction du cumul des mandats, qui fait que tu ne peux pas cumuler un mandat de parlementaire, député ou sénateur, avec un mandat exécutif local. Maire, adjoint au maire, président, vice-président de conseil régional ou départemental. Et interco. Pour te mettre en conformité, tu as un délai de... Je sais plus combien de temps. Tu le connais, Denis, le délai? Je sais plus. T'as un délai. T'as un délai de quelques mois, je sais plus combien, pour te mettre en conformité. Je sais pas, 3 mois, 2 mois, je sais plus. Je me souviens plus. Donc Laurent Wauquiez va devoir se mettre en conformité et démissionner d'un des deux postes. Les équipes de Bercy vont être bien stressées après désignation du PM si les hypothèses changent tardivement. Alors, d'une part, tu as raison, oui, les fonctionnaires de Bercy vont être stressés parce que le budget va être rock'n'roll et à la dernière minute. Deuxièmement, les fonctionnaires de Bercy vont être stressés parce que la situation budgétaire de la France n'est pas top. On est en procédure de déficit excessif déclenché au niveau de l'Union européenne et les perspectives de recettes sont pas ouf. Donc, ça va crisser sévère, quel que soit le Premier ministre, quel que soit le ministre du budget. Ça va crisser. Il va falloir assumer des choix budgétaires et des caps budgétaires, des trajectoires de normalisation, etc. Je ne suis qu'un pauvre manutentionnaire, je ne suis pas capable d'accumuler plusieurs emplois, comment font-ils? Député, sénateur, président de conseil régional ou départemental, maire, ce ne sont pas des emplois. Ce ne sont pas des travaux. Ce sont des mandats politiques. Donc ça ne répond pas aux logiques du contrat de travail, par exemple. Ça ne répond pas aux logiques de temps de travail. Ça ne répond pas aux logiques liées au monde du travail. Ce sont des mandats publics. Pourquoi sur le budget, les perspectives de recettes sont pas ouf? Parce que la croissance est mauvaise. La croissance de la France est pas dingue. Hein. De mémoire, on a dû revoir à la baisse 2 fois au cours de l'année les prévisions de croissance. Si l'économie va pas bien, le pognon rentre pas dans les caisses et on est marron. Hein. Euh... à la hausse. Les perspectives de croissance, elles ont été revues à la hausse. Je croyais qu'on avait accumulé les mauvaises nouvelles cette année. Alors, j'ai pas dû lire les bons articles. J'ai pas lu le Financial Times depuis 3 semaines. Il faut que je le relise. Où est-ce qu'on en est? France. Ah non, merde, c'est pas là. Bon, bref, je verrai ça plus tard. Wauquiez a normalement 30 jours pour faire cesser l'incompatibilité. Je me demande pourquoi Najat Vallaud-Belkacem ne l'a pas référé suspensionné. Oui, t'as raison, elle aurait pu. Elle aurait pu, Najat Vallaud-Belkacem, faire ça, parce que c'est son opposante régionale. Il a 30 jours pour se mettre en conformité? Eh ben, les 30 jours, ils sont passés, là. Laurent Wauquiez, t'es toujours président de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Je suis pas d'accord. L'agence Standards & Poor's est valable? Bah, ça dépend qui t'es. L'agence Standards & Poor's, c'est pas la seule, hein, y en a d'autres, c'est une agence de notation qui note les dettes des entreprises, des États, enfin toutes les personnes qui émettent de la dette. Elle travaille pour le compte des prêteurs. Donc elle te donne des notes sur les entreprises et tout, en leur disant, vas-y, tu peux prêter de l'argent, c'est sûr, il va pouvoir te rembourser. Ou alors, vas-y mollo, parce que celui-là... Pas sûr qu'il rembourse. C'est ça une agence de notation. Rappelez-vous Liz Truss. Rappelez-vous Liz Truss. Première ministre britannique. Qui obtient le poste en ayant promis à toute la droite du parti des Tories qu'elle baissera massivement les impôts sur les plus riches. La meuf, elle arrive au gouvernement. Elle présente un mini-budget, donc c'est l'équivalent d'un budget rectificatif en France. Elle présente un mini-budget avec des baisses drastiques d'impôts. Les marchés financiers lui disent « Ok meuf, c'est cool, mais t'as prévu de les financer comment tes baisses d'impôts ?» Et en fait, elle avait rien prévu. Et du coup, elle patauge dans la semoule pendant 3 semaines avec son ministre des Finances pour essayer de justifier le fait que bah, en fait, on va dépenser de plus en plus, on va emprunter de plus en plus. Et voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La note de... C'est pas la note du Royaume-Uni, mais c'est les taux d'intérêt explosent. Parce que les prêteurs, ils disent, mais attends, c'est de la merde ce budget. En fait, le Royaume-Uni n'aura jamais les moyens de nous rembourser. Donc du coup, les taux d'intérêt explosent. Et Liz Truss se fait dégager sur fond de crise budgétaire massive au Royaume-Uni. Bravo, meuf. Bravo. Les marchés ont perdu complètement confiance dans le Royaume-Uni. Ils font n'importe quoi. Leurs budgets sont pas financés, il n'y a pas de recettes, c'est n'importe quoi, et ciao, bye. C'était presque du talent pour s'écrouler aussi vite. Ouais, c'était spectaculaire. C'est ce qui nous attend avec les mesures LFI ELV. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que LFI, ELV, comme tu dis, s'ils arrivent au gouvernement demain et qu'ils présentent un budget de gauche à l'Assemblée nationale, ils vont proposer des augmentations de recettes. Ils vont proposer des augmentations de recettes. Ils vont mieux échelonner l'impôt sur le revenu. Ils vont augmenter, recréer un impôt sur la fortune. Bon, ça rapporte pas grand-chose, l'impôt sur la fortune, mais c'est plus symbolique. Ils vont augmenter des trucs, donc ils vont faire rentrer plus de pognon dans la caisse. Le truc, c'est qu'en parallèle, ils vont aussi en décaisser beaucoup d'argent. Parce que si on lit le programme du nouveau Front Populaire, effectivement, il y a beaucoup de dépenses. Hein. L'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, c'est quand même une charge vénère sur les finances de l'État. C'est le principe, c'est le salaire des fonctionnaires. Donc, il va falloir que leur budget soit équilibré pour assurer tout le monde, en fait. Pour leur dire, non, regardez, c'est bon, on a des perspectives. Ils vont supprimer le CICE. Alors le CICE n'existe plus, je vous le rappelle, le CICE n'existe plus depuis très longtemps. Il a été remplacé par des baisses de charges. Sur les entreprises. Et le nom CICE est resté dans l'esprit de tout le monde, mais en fait, il n'existe plus. Et les personnes qui payent l'impôt iront ailleurs. Alors ça, Denis, c'est justement le chantage que font les riches. Les riches font un chantage à l'expatriation si jamais les impôts augmentent. Et on est censé accepter ce chantage. On est censé dire « Ah, merde !» Ah, les riches, ils vont partir. Bah, du coup, faut pas leur faire d'impôts. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, il faut que je le relise, mais le programme du nouveau Front Populaire, il propose pas l'impôt universel? Vous savez, le truc des Américains, là, qui fait que tu payes des impôts n'importe où, où que tu sois dans le monde, tu payes des impôts. Ouais, je me souviens bien, il y avait ce truc-là dans le programme du NFP. Bon, bah voilà, ça règle le problème. Tu dis aux riches, vous voulez partir? Bah partez. Continuez à vous imposer de toute façon. Même aux Seychelles, vous paierez des impôts. Par contre, vous pouvez renoncer à votre citoyenneté française. Ça, c'est votre problème. Si vous êtes un sac à merde jusqu'au bout, soyez-le jusqu'au bout. Abandonnez la France. Voilà. Ouais, l'exit tax. Ouais. Ça se met en place facilement, ça? Je crois que c'est un peu compliqué. Non, en fait, je réfléchis parce que je suis pas sûr que ce soit conventionnellement possible. Je sais pas, je suis pas ministre du budget. Heureusement, parce que sinon je serais comme ça. Donc ce sera à je sais pas qui, ministre du budget, de répondre à cette question. Les États-Unis le font, mais c'est les États-Unis. Oui, je sais, mais conventionnellement, ça veut dire conforme au traité auquel la France se soumet. À qui demanderait? Oui. Enfin, la France ne se soumet pas à des traités, la France a ratifié des traités. Donc elle applique des traités avec lesquels elle est d'accord. Avec là où le NFP va continuer à rétablir le lien entre ceux qui s'enrichissent. Écoute, je n'en sais rien, mais tout ce que je vous dis, c'est que le nouveau Front Populaire promet des choses, comme tout groupe politique, et c'est normal, et il a bien raison de le faire. Est-ce que tout est réalisable? Peut-être pas. Est-ce que tout est réalisable en même temps dès la première année? Peut-être pas non plus. C'est pour ça que Lucie Castet a dit qu'il y avait des horizons. Il y avait des choses qui ne sont pas des promesses immédiates, mais des horizons, genre à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut faire les choses progressivement. Je suis pas d'accord, on se soumet car le droit des traités prime sur le droit national. Non mais un traité, c'est un contrat. Un traité, c'est un contrat que tu signes. Tu es d'accord avec ton contrat. Tu te soumets pas à ton opérateur téléphonique. T'as souscrit un contrat chez lui. T'es OK pour payer une somme d'argent en échange de crédit pour envoyer des SMS. Ça n'existe plus, ça. Eh ben c'est pareil, un traité. Si on contracte pas, c'est bon. Ah, si on contracte pas, c'est pas pareil. Tum. 1600 euros et virer la réforme des retraites me convient très bien pour la première année. Ouais, alors le SMIC à 1600 euros, typiquement, Lucie Castel a dit que c'était un horizon 1600. C'est-à-dire que peut-être que la première année, on va passer à 1005 et puis que la deuxième, on passera à 1006. Pour pas que ce soit un coup trop dur, notamment pour les PME qui risquent de pas réussir à payer les salaires. Peut-être qu'il y aura un plan d'accompagnement des PME pour soutenir les salaires. Peut-être qu'il y aura des réductions. Alors, à mon avis, c'est pas trop l'option choisie par le NFP de faire des réductions de cotisations sur les bas salaires. Parce que ça augmenterait le phénomène de smicardisation qui est dénoncé par le NFP, donc bon. SMIC plus prime d'activité 1600 déjà aujourd'hui. Oui, parce que tu rajoutes la prime d'activité. La caisse de péréquation, ça n'a rien à voir. La caisse de péréquation, c'est entre les territoires. Et c'est sur les impôts locaux. De mémoire. Est-ce que la France... Est-ce que quand la France, le pouvoir politique peut-il saisir les comptes des Français pour payer la dette ou autre? Non. L'État ne peut pas saisir ton compte en banque. Alors, sur décision de justice, si. Si tu dois payer une amende et que tu payes toujours pas ou machin, il peut y avoir des saisies, saisies sur salaire, etc., saisies sur ton compte, ça c'est possible. Mais pas pour payer la dette, non. Ça s'appelle l'impôt. Oui, non mais oui, t'as raison, oui, oui c'est ça, en fait, t'as pas besoin de saisir de l'argent sur les comptes, tu imposes les gens. Et je vous rappelle que c'est un délit de ne pas payer ses impôts, donc en fait ça revient au même. La saisie attire des tenteurs, exactement. Oh, ça c'est du droit privé, putain, ça remonte les souvenirs. Bonsoir à tous, j'ai un sacré retard politique, je fais en sorte d'évoluer, alors j'écoute ce que vous avez à dire. Bienvenue à toi, tu es sur la bonne chaîne. Si je peux vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en politique, c'est mon boulot. Et je suis fier de le faire. Donc ouais, non, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de... Tac, 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 la dissolution... pas la dissolution, pardon, la destitution. Le NFP, tout ça, ce qui risque d'arriver. Tiens, une question marrante. Si Emmanuel Macron nomme, je sais pas moi, Xavier Bertrand Premier ministre, alliance ou accord à minima entre les macronistes et les républicains, le NFP vote la motion de censure. Mais si c'est une motion de censure déposée par le RN, est-ce que le NFP la vote ? L'inverse, c'est déjà vu. Ah oui, l'inverse, c'est déjà vu. Le RN, ils sont opportunistes. Ils votent toutes les motions de censure, même si elles sont déposées par la gauche, etc. Par contre, la gauche ne vote pas les motions de censure du RN. De Courson poserait une motion ? Non, je ne pense pas. Charles de Courson, il a déposé une motion de censure sur la réforme des retraites. Elle était très précise, sa motion de censure. C'est pas... Charles de Courson, c'est pas une tête brûlée qui déteste le gouvernement et qui votera n'importe quelle motion de censure. Il a déposé et soutenu une motion de censure précise dans le cadre de l'adoption d'une réforme des retraites par 49.3. Mais Charles de Courson, il va pas s'amuser à voter. Charles de Courson n'est pas un camarade, on va le redire. C'est pas un mec qui vote avec la gauche, qui est de gauche, etc. Pas du tout. Il me semblait qu'il l'avait fait, à moins que celle de Liotte. Alors, une fois, la France Insoumise a voté un texte de droite. C'était une motion de rejet préalable déposée par la droite, par LR. Et c'était François Ruffin, l'ex-insoumis, François Ruffin, qui était allé défendre à la tribune la position du groupe LFI et qui avait dit « Nous assumons de voter avec la droite. » Un texte de droite. En plus, c'était vraiment un texte de droite. Hein. Tu vois le dispositif, l'exposé des motifs. Mais c'est le seul souvenir que j'ai de LFI votant un truc de droite. Et au final, c'est pas passé. C'était quoi ? C'était une motion de rejet. C'était une motion de rejet d'un texte, je sais plus lequel. Je pense qu'il y a malheureusement une grande probabilité que Macron nomme un Premier ministre de droite, vu sa totale opposition à LFI, dont le NFP ne peut se passer pour gouverner et inversement. Oui, tu as raison. Tu as raison. Ta méthode de réflexion est la bonne. Tu as raison. L'autre réalité, c'est, je vous le disais tout à l'heure, la gauche a 200 députés, la droite en a 350. ça dépend ce qu'on appelle la droite, mais avec une acceptation large, on est dans ces étiages-là, il n'y a quasiment aucune chance que la gauche gouverne le pays dans les jours qui viennent. La vraie question que je me pose, moi, en fait, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que le RN va voter une motion de censure ? Je ne suis pas sûr que le RN ait intérêt au désordre à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que le RN ait intérêt à une fin de mandat bordélique. Je pense que le RN a intérêt à attendre 2027. Et que donc il pourrait jouer un jeu qui consiste à ne pas soutenir mais à ne pas défoncer non plus. Attal propose la reconduction du budget à l'identique pour 2025. Oui, c'est gentil, c'est normal, il était Premier ministre au moment où ce budget a été voté, donc oui, évidemment qu'il le défend ce budget. Mais pas sûr qu'il soit défendu par tous les députés, tu vois. Ça rentrerait dans le processus de dédiabolisation. Exactement, la stratégie de la cravate. Être poli, bien élevé, pas faire de vagues. Il n'était pas Premier ministre ? Ah, vous avez raison. Vous avez raison, il a été nommé en janvier. Le budget a été voté en décembre. À un mois près. Bon, du coup, non, ce n'est pas le budget. Attendez. Ok, ce n'est pas le budget qu'il a défendu en tant que Premier ministre. Il n'a jamais défendu de budget, Gabriel Attal. Pardon, c'est pas gentil de rire, mais il a été Premier ministre de janvier à août. Août-septembre, on verra. Mais bref, voilà. Il n'a pas défendu de budget, donc. Par contre, il a exécuté ce budget en tant que Premier ministre. Et quand il était député, enfin, quand il était ministre avant dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, il a soutenu le budget. Pardon, je ne faisais que te taquiner. Non, mais t'as raison. Non, mais ok, d'accord, soyons précis. Ah ouais, ok, donc vous êtes des contrôle fric. D'accord, ok, vous voulez jouer à ça ? Ok, on va jouer à ça. Non, on va pas jouer à ça, en fait, ça me saoule. Il a été ministre des comptes publics. Oui, c'était il y a quelques années maintenant. Le RN a 2 ans pour former leur futur député. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est ce que disait Usul, je me souviens, qui disait effectivement assez justement que, en fait, le RN a été pris au dépourvu par ces élections législatives anticipées, que du coup, ils ont présenté des candidats un peu ce qu'ils avaient sous la main, et que du coup, bah, ils sont un peu fait allumer la gueule par tout le monde, parce que leurs députés, bah, y a quand même un paquet de tocards dedans, quoi. Et du coup, ça la foutait mal. Pourquoi LFI adopte pas la stratégie de la cravate aussi ? Ah, LFI, ils font tout l'inverse. La stratégie de la cravate, c'est pas leur genre. LFI, ils adoptent une radicalité, une position de radicalité, parce que Jean-Luc Mélenchon l'a expliqué lui-même à plusieurs reprises, le but du jeu pour la France insoumise, c'est de conquérir l'électorat abstentionniste des quartiers populaires. LFI, ils ont fait leur calcul dans leur coin, et ils ont dit, c'est pas compliqué, si on réussit à faire voter les quartiers populaires, alors on peut gagner la présidentielle. Voilà. François Ruffin proposait un chemin différent qui consistait à non pas aller chercher les électorats dans les quartiers populaires, mais à aller chercher les électorats déclassés des bassins anciennement industriels, désindustrialisés. Évidemment qu'il défend ça, François Ruffin, parce que toute sa vie politique a consisté à défendre les travailleurs de la Somme. Les ouvriers, Les fâchés, pas fachos. Ouais, voilà, c'est ça. Tout cet électorat qui est lorgné par le Rassemblement national. On a besoin de plus d'influenceurs ouvertement LFI. T'es sûr de ça? Peut-être. C'est tout Twitter. Il y a un réseau social entier, LFI. Tout le monde doit être LFI toujours plus. Mais non, mais vous faites ça pour troller. Arrêtez de troller la France Insoumise, putain. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais... C'est pas des débiles dégénérés, les Insoumis, arrêtez. Pas tous. Seulement ceux sur Twitter. On a surtout besoin d'un parti de gauche qui arrive à construire un mouvement populaire et local, façon comme le PC quand il existait. Ça s'appelle pas le Parti Socialiste, ça? Enfin, de toute façon, je veux dire, encore une fois, hein, je vais être chiant avec ça, mais le NFP, c'est le Parti Socialiste des années 80 à 2000. T'as une aile gauche du Parti Socialiste qui s'appelle la France Insoumise, qui est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été un dirigeant de l'aile gauche du Parti Socialiste. T'as les chevènementistes, c'est le Parti Communiste Français. Et t'as les... Et t'as la motion A. Qui est... Alors, c'était la synthèse hollandienne, mais aujourd'hui c'est Olivier Faure. Et Hollande et Cazeneuve, etc., ils représentent plutôt la motion des Strauss-Kahniens. Sociaux-démocrates, etc., Raphaël Glucksmann et tout machin. Et ELV, il n'y avait pas vraiment de motion écolo au PS. Pas vraiment. Mais en tout cas, moi, le Parti Socialiste auquel j'ai adhéré il y a plus de 20 ans, c'était ça. Il y avait Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls, dans le même parti. C'était grand, hein. Il y avait de la place. Hein. Et c'était un parti qui faisait 300 députés. C'est quoi le budget réversible proposé par le gouvernement? Je sais pas. Budget réversible, j'ai pas lu ça. Où je relise des trucs. C'est entre autres pour ça que le bipartisme n'existe plus. Les partis sont éclatés et la 5ème République ne sait pas gérer ça. Ouais. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Le bipartisme a fait son temps. Mais là, on est quand même dans une période politique bizarre parce que les partis politiques historiquement structurants de la vie politique parlementaire, qui étaient l'UMP et le Parti Socialiste, sont extrêmement réduits au niveau national. Ils font des mauvais scores aux élections présidentielles et ils font des mauvais scores aux élections législatives. Enfin, ils arrivent à quelques dizaines de députés, c'est très peu par rapport aux centaines qu'ils ont eu l'habitude d'être. Mais pour autant, ces deux partis-là restent très puissants au niveau local. Les socialistes et les républicains sont très puissants localement. Ils ont des régions, des départements, des communes. Et à l'inverse, au niveau national, tu as des partis qui brillent. Ce sont des partis à leader charismatique. Le Rassemblement National, La République En Marche, La France Insoumise, qui cartonnent dans les élections présidentielles. mais qui sont très mauvais dans les élections intermédiaires. Ils n'ont pas d'assises locales. Galère. Même les macronistes, hein. C'est très bizarre le paysage politique qu'on a aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi pour dire que les institutions de la Ve République n'ont pas été pensées pour ce système politique-là. Le local qui influence derrière le vote pour les sénateurs, c'est bien ça, exactement. C'est vrai qu'ils sont puissants localement, mais comment expliquer leur faible score aux législatives ? Bah, parce que le score aux législatives est corrélé avec le score au présidentiel. C'est pour ça, les socialistes, ils font 2% à la présidentielle, ils ont 30 députés. LR, ils font 2% à la présidentielle, ils avaient combien ? Ils avaient 60 députés ? Éric Ciotti, il avait combien de députés ? 40 ? 60, je sais plus. C'est pour ça. À quel moment le RN est faible localement, ils sont hyper forts au contraire. Ils n'ont pas de collectivité locale importante. Alors si, ils ont des villes, t'as raison. Ils ont des villes, ils ont Béziers par exemple, ils ont des villes comme ça, ils ont des villes moyennes. Mais ils n'ont pas de majorité dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux. Ils n'ont pas de grandes villes. Ils n'ont pas de région, non, non, ils n'ont pas de région. Ils ont échoué, ils ont voulu en avoir deux, ils ont échoué. Ils ont échoué en PACA, ils ont échoué dans les Hauts-de-France. Ménard n'est pas au RN. Non, c'est vrai, Ménard n'est pas au RN, mais il est d'extrême droite. Oui, t'as raison, effectivement, le RN, techniquement, c'est pas dans leur escarcelle, mais... Hénin-Beaumont, ouais. C'est pas très grand, Hénin-Beaumont. Perpignan avec Lualio, tu as raison, Perpignan. Fréjus. Il y avait Orange, ouais, dans les années 90. C'était pas le RN, c'était la Ligue du Sud. Mais bref. Attends, bouge pas. Je vais m'arrêter là, les copains. Je vais m'arrêter là, les copains. Ça fait 2 heures de stream quand même. C'est pas mal hein, pour un stream des vacances où je suis pas censé streamer. Bon, bah, comme d'hab, hein, il est possible que je dégaine un stream sorti de nulle part ce week-end si jamais il y a une dingue qui se passe avec un premier ministre qui est nommé. Ça dépendra de la connexion. Merci pour vos subs. En vrai, je vous ai pas remercié. Ekion, Mazix, Atlonto, Perceval, Carineo. Océane, Paf, Ticaf, Bardrak, Rocket, Toutik, Safok, Kalasune, Vegeta, Corp, Goliab, Toro Radio, Stanimal, Kelexpouet, Sati, Genzu, Dakeres, Inkaya. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était chouette. Je vous fais des bisous et je vous retrouve peut-être demain si vous êtes sage. Tiens, parce que demain, j'ai un stream de demain. En vrai, si ça se trouve, je stream demain. Hein. C'est pas sûr. Hein. Attention, ça peut dégainer à n'importe quel moment. Merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao, bye bye. Merci. Au revoir.